Contrairement à la plupart de ceux avec qui j'avais été à l'école de circoncision, je n'étais pas destiné à travailler dans les mines d'or du Rif. Le régent m'avait souvent dit « Tu n'es pas fait pour passer ta vie à travailler dans les mines d'or de l'homme blanc sans savoir écrire ton nom. » Mon destin était de devenir conseiller de Sabata, le futur roi. Et pour cela, je devais être instruit. En 1937, alors que j'avais 19 ans, j'ai retrouvé justice à Held Town, le lycée wesleyen de Fort Beaufort, à environ 260 km au sud-est d'Umtata. Au XIXe siècle, Fort Beaufort était un des nombreux avant-postes britanniques construits pendant les guerres dites de la frontière, au cours desquelles les empiétements des colons blancs dépossédaient systématiquement les différentes tribus Xhosa de leurs terres. À l'époque de mon arrivée, Fort Beaufort était une ville de blancs, là où autrefois seuls les Xhosa avaient vécu et cultivé les champs. Situé au bout d'une route sinueuse qui surplombait une vallée verdoyante, la ville d'Held Town avait le plus grand lycée africain au-dessous de l'équateur, avec plus d'un millier d'étudiants, filles et garçons. Ses bâtiments coloniaux, élégants, couverts de lierre, et ses cours ombragés donnaient la sensation d'une oasis universitaire privilégiée, ce qu'il était précisément. Held Town était une école de mission de l'église méthodiste où l'on dispensait un enseignement chrétien et libéral fondé sur le modèle anglais. L'anglais éduqué était notre modèle. Nous aspirions à devenir des Anglais noirs, comme on nous appelait parfois par dérision. On nous enseignait, et nous en étions persuadés, que les meilleures idées étaient les idées anglaises, que le meilleur gouvernement était le gouvernement anglais et que les meilleurs des hommes étaient les Anglais. Au cours de ma dernière année à Held Town, il se passa un événement qui me fit l'effet d'une comète traversant le ciel. Vers la fin de l'année, on nous informa que le grand poète Xhosa, Clunet Mkai, allait rendre visite à notre lycée. Mkai était vraiment un imbongi, un chanteur célèbre, une sorte d'historien qui raconte les événements et l'histoire sous forme poétique, ce qui a une signification particulière pour son peuple. Les autorités de l'école décidèrent qu'il n'y aurait pas classe le jour de la visite. Le matin, toute l'école, y compris les membres du personnel, noirs et blancs, se réunirent dans le réfectoire où se tenaient les assemblées. Soudain, une porte s'ouvrit, et en sortit un homme noir, vêtu d'un carrosse en peau de léopard et d'un chapeau assorti, avec une lance dans chaque main. La vue d'un noir en costume tribal franchissant cette porte fut électrisante. Il est difficile d'expliquer l'impact que cela eut sur nous, comme si l'univers s'était renversé. Quand Mkai s'assit sur l'estrade, nous eûmes du mal à contenir notre émotion. À un moment, pour souligner son propos, il leva sa sagaie et toucha accidentellement le fil du rideau. Il y eut un bruit sec et le rideau se balança. Le poète regarda la pointe de sa lance et le fil du rideau, puis plongé dans ses pensées, il marcha de long en large sur la scène. Au bout d'une minute, il s'arrêta, se tourna vers nous, puis, ayant retrouvé une nouvelle énergie, il s'écria que cet incident, la sagaie touchant le fil, symbolisait le conflit entre la culture africaine et la culture européenne. Sa voix s'éleva. Et il ajouta « La sagaie représente ce qui est glorieux et vrai dans l'histoire africaine. C'est le symbole de l'Africain comme guerrier et de l'Africain comme artiste. Le fil de métal, dit-il en tendant le doigt au-dessus de lui, est un exemple de l'industrie occidentale qui est habile, mais froide, intelligente, mais sans âme. » Ce dont je parle, poursuivit-il, ce n'est pas d'un bout d'os touchant un morceau de métal, ni même de l'empiétement d'une culture sur une autre. Ce dont je vous parle, c'est le conflit brutal entre ce qui est indigène et bon, et ce qui est étranger et mauvais. Nous ne pouvons permettre à ces étrangers qui ne s'intéressent pas à notre culture de s'emparer de notre nation. Je prédis qu'un jour, les forces de la société africaine remporteront une éclatante victoire sur l'intrus. Voilà trop longtemps que nous succombons aux faux dieux de l'homme blanc. Mais nous nous redresserons et nous rejetterons ces idées étrangères. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Avoir la hardiesse de parler de ces questions délicates en présence de blancs me semblait absolument stupéfiant. Pourtant, cela nous réveillait et nous stimulait en même temps, et cela commença à modifier la perception que j'avais d'homme blanc, que jusqu'ici j'avais automatiquement considéré comme mes bienfaiteurs. Jusqu'en 1960, l'université de Fort Hare, dans la municipalité d'Alice, à une trentaine de kilomètres à l'est de Helltown, resta l'unique centre d'enseignement supérieur pour les Noirs d'Afrique du Sud. Mais Fort Hare représentait plus encore. C'était un phare pour les universitaires africains de l'Afrique australe, centrale et de l'Est. Pour les jeunes Sud-Africains noirs comme moi, c'était Oxford et Cambridge, Harvard et Yale en même temps. Le régent tenait absolument à ce que je m'inscrive à Fort Hare et j'eus le plaisir d'y être admis. Pendant la première année, j'ai étudié l'anglais, l'anthropologie, la politique, l'administration indigène et le droit hollandais. L'administration indigène traitait des lois relatives aux Africains et était recommandée à tous ceux qui voulaient travailler au ministère des Affaires indigènes. À cette époque, une carrière de fonctionnaire représentait quelque chose d'extraordinaire pour un Africain, et le sommet de ce à quoi il pouvait aspirer. Dans les zones rurales, un interprète au bureau du juge était considéré comme l'adjoint du juge lui-même. Dans ma seconde année à Fort Hare, quand on créa un cours d'interprétariat dispensé par un interprète de tribunal à la retraite, je fus un des premiers étudiants à m'inscrire. Plus tard, cette ambition se transforma en un intérêt pour l'étude du droit. Pendant mes deux années à Fort Hare, je me suis concentré sur mes études en prévision des examens d'octobre. J'imaginais que dans un an, j'aurais ma licence. Je croyais qu'un diplôme universitaire était un passeport non seulement pour la communauté dirigeante, mais aussi pour la réussite financière. Titulaire d'une licence, je serais enfin capable de rendre à ma mère la richesse et le prestige qu'elle avait perdu après la mort de mon père. Je lui construirais une maison convenable, avec un jardin, un mobilier et les installations modernes. Je pourrais la soutenir, ainsi que mes sœurs, pour qu'elles s'achètent ce qu'on leur avait refusé pendant si longtemps. Tel était mon rêve et il me semblait à portée de main. J'avais été désigné pour siéger au conseil représentatif des étudiants. Je ne savais pas à l'époque que les événements qui entouraient l'élection d'un étudiant créeraient des difficultés qui changeraient le cours de ma vie. Les élections au CRE avaient lieu au cours du dernier trimestre de l'année, alors que nous étions en pleine préparation des examens. L'ensemble des étudiants élisait les 6 membres du CRE. Peu avant l'élection, une assemblée générale eut lieu pour discuter de problèmes. À l'unanimité, les étudiants pensaient que les pouvoirs du CRE devaient être renforcés. Quand une majorité d'étudiants vota le boycott des élections si la direction n'acceptait pas nos revendications, je votai avec eux. Peu de temps après cette réunion, les élections prévues eurent lieu. La majorité des étudiants les boycottèrent. mais 25 d'entre eux, environ le sixième du total, ne suivirent pas la consigne et élurent 6 représentants, dont moi. Les 6 élus se réunirent pour discuter des événements. Nous décidâmes à l'unanimité de présenter notre démission collective sous le prétexte que nous soutenions le boycott et que nous refusions de soutenir les votants. Puis nous rédigeâmes une lettre que nous remîmes au principal, le docteur Kerr. Mais le docteur Kerr était habile. Il accepta notre démission et annonça que de nouvelles élections auraient lieu le lendemain au réfectoire à l'heure du dîner. Il était sûr ainsi que tous les étudiants seraient présents. Ce soir-là, les élections eurent bien lieu, mais seuls les mêmes 25 étudiants votèrent et réélurent les mêmes 6 membres du CRE. Mais cette fois, quand les 6 élus se réunirent pour décider d'une position, le vote fut très différent. Mes 5 collègues s'accrochèrent à l'aspect technique. Ils avaient été élus lors d'une réunion à laquelle assistaient tous les étudiants. Et par conséquent, nous ne pouvions plus soutenir que nous ne représentions pas l'ensemble de nos camarades. Les 5 croyaient que maintenant nous pouvions accepter la charge. Je répliquai qu'en fait rien n'avait changé. Si tous les étudiants étaient bien présents, une majorité n'avait pas voté. Et il serait moralement incorrect de dire que nous avions leur confiance. Incapable de persuader mes collègues, je démissionnais pour la seconde fois. Le docteur Kerr me demanda de reconsidérer ma démission, mais il m'avertit que si je persistais, il serait obligé de me renvoyer de Fort Hare. Je lui dis qu'en toute conscience, je ne pouvais pas participer au CRE. Il réfléchit un instant avant de répondre « Très bien, si c'est ce que vous avez décidé. Mais j'ai aussi pensé à cette affaire, et voici ce que je vous propose. Vous pourrez revenir à Fort Hare l'année prochaine, à condition que vous fassiez partie du CRE. Vous avez tout l'été pour y réfléchir, Monsieur Mandela. » D'une certaine façon, j'étais aussi surpris par ma réponse que par celle du docteur Kerr. Je savais qu'il était extrêmement imprudent pour moi de quitter Fort Hare, et à ce moment-là, j'aurais dû accepter un compromis. Quelque chose en moi me l'interdisait. Je supportais mal le pouvoir absolu qu'avait le docteur Kerr sur mon destin. Cette injustice me restait sur le cœur, et à cet instant, je considérais moins le docteur Kerr comme un bienfaiteur que comme un dictateur. Après avoir passé mes examens et être rentré chez moi, j'ai dit au régent ce qui se savait déjà. Il était furieux et n'arrivait pas à comprendre les raisons de mes actes. Il trouvait cela absurde. Sans même écouter mes explications, il m'informa sans ménagement que je devais obéir aux instructions du principal et retourner à Fort Hare en automne. Son ton n'invitait pas à la discussion. Je décidai de laisser les choses se calmer un peu. Quelques jours après, je repris mon ancienne vie. Je m'occupais des affaires du régent, y compris son troupeau et ses relations avec les autres chefs. Quelques semaines après mon retour, le régent me convoqua. « Mes enfants, dit-il d'une voix sombre, j'ai peur qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à passer dans ce monde. » Et avant de partir en voyage vers le pays des ancêtres, mon devoir m'oblige à voir mes 2 fils convenablement mariés. J'ai donc arrangé des mariages pour vous 2. Cette nouvelle nous prit par surprise, et nous nous regardâmes partagés entre l'étonnement et l'impuissance. Les jeunes filles appartenaient à de très bonnes familles, ajouta le régent. Justice devait épouser la fille de Kalipa, un important aristocrate Tembou, et Rolitlatla, comme le régent m'appelait toujours, devait épouser la fille du prêtre Tembou local. Il dit que le mariage de Justice aura lieu immédiatement, et le mien, après avoir terminé mes études à Fort Hare à la fin de l'année. Justice et moi quittâmes l'entretien la tête baissée, abasourdis et déprimés. Le régent agissait en accord avec la loi Tembou, et l'on ne pouvait rien dire. Il voulait que nous soyons installés, alors qu'il était encore vivant. Nous avions toujours su que le régent avait le droit d'arranger nos mariages, mais maintenant ce n'était plus une possibilité abstraite. Les fiancés n'étaient pas le fruit de l'imagination, mais des femmes de chair et d'os que nous connaissions vraiment. Avec tout le respect que je devais à la famille de la jeune femme, j'aurais été malhonnête si j'avais dit que la fille que le régent avait choisie pour moi était la fiancée de mes rêves. Sa famille était importante et respectée, et elle était attirante d'une façon tout à fait digne, mais cette jeune fille, j'en ai peur, était depuis longtemps amoureuse de Justice. Je ne pouvais accepter ce mariage que je trouvais injuste et peu judicieux. En même temps, je pensais que je ne pourrais plus rester sous la tutelle du régent si je devais refuser son projet de mariage. Justice était d'accord, et nous décidâmes qu'il ne nous restait qu'à nous enfuir et que nous ne pouvions aller qu'à Johannesburg.